Étant très observateur, chère Elsa, on peut constater que vous avez un superbe sourire.
Merci Michel, c'est toujours un plaisir.
Mais ça ne se voit pas à la radio.
Et malheureusement, bientôt.
Ça s'entend. En tout cas, on sent que vous êtes venu avec de la joie, de la bonne humeur. Et aujourd'hui, on va parler de choses très intéressantes, comme dans toutes les émissions. Mais on va parler de nourriture. Vous aimez les bonnes assiettes, Elsa ?
Les bonnes assiettes, que ça soit bon, mais aussi niveau santé, il faut équilibrer. Et on est là pour en parler.
Mais on ne le dit pas, mais manger étouffe en art. Et oui, maintenant, il faut être artiste pour bien se nourrir, pour manger sainement, santé, avoir la ligne. Bon, allez, comme il se doit, on va faire un peu de sport, Elsa.
Oui.
On va lancer le générique.
Top générique, c'est parti.
Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. Elsa Mawart, Michel Berger.
Les artistes ont la parole, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, merci d'être là, vous avez choisi la bonne fréquence. Effectivement, on en a parlé en début d'émission, on va parler nourriture. Bonjour Elsa avant tout.
Bonjour Michel.
Bonjour à vous qui nous écoutez, oui, vous êtes bien calés. Une émission qui va, je suis sûr, vous intéresser pour beaucoup. En notre compagnie, nous avons Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour, ravi d'être là.
Et bienvenue à bord. Jean-Michel Cohen qui est accompagné aussi d'un deuxième invité qu'on a reçu en début de saison aux côtés de David Martin, c'est Cyril Blanchard. Bonjour Cyril.
Eh bien bonjour, merci pour votre accueil.
Bonjour Cyril.
Tu es le bienvenu Cyril. Aujourd'hui on va parler de nutrition.
Ok, c'est mon job. Ouais.
Ça a l'air de t'étonner Jean-Michel.
Non, ça m'étonne pas. On m'invite rarement pour d'autres choses. Peut-être que ça va venir, mais on m'invite rarement pour le moment pour d'autres choses.
C'est vrai, tu as sorti plein de livres, Jean-Michel Cohen, sur la nourriture, effectivement. Comme je le disais en début d'émission, manger est tout un art à notre époque.
Ben, c'est en train de changer. Ça veut dire qu'auparavant, manger, c'était un acte réflexe. On mangeait par habitude familiale, par transmission. On mangeait aussi en fonction de ses moyens et de l'endroit où on habitait. Aujourd'hui, maintenant, les deux critères qui font l'alimentation, c'est bien sûr toujours le plaisir, mais le numéro 2, désormais, c'est la santé. Donc, ça signifie que les gens ont besoin d'être informés, qu'ils ont besoin d'équilibrer leur alimentation. Et de ce fait, c'est devenu beaucoup plus complexe qu'auparavant, parce que si avant vous n'aimiez pas quelque chose, vous ne mangiez pas. Aujourd'hui, vous vous forcez à manger certaines choses. Et après, il faut trouver des accommodements. Donc, ça devient un petit business, notamment pour ceux qui font à manger à la maison.
C'est surtout qu'on est dans une période aussi avec les ados et les fast-food qui sont maintenant montés comme des champignons sur la place de Paris et tout en France. Je pense aussi que c'est une nécessité maintenant, parce que de prendre, je pense, en main des jeunes filles ou des jeunes garçons à partir de 10 ou 11 ans, parce que je trouve que le système de malbouffe, on est là aujourd'hui, on en voit les séquelles.
Alors l'accès à la nourriture a beaucoup changé par rapport à auparavant, et c'est vrai que désormais on a les moyens de manger pour pas cher, ce qu'on appelle la street food, c'est-à-dire la nourriture de rue, donc des petits magasins qui font de la nourriture extrêmement appétissante, mais pas forcément très bonne pour la santé. Quand on parle des fast food, en réalité, moi je pourrais très bien m'alimenter dans un fast food, je sais comment faire. La problématique, c'est que le rôle des fast food, c'est de vendre, et donc ils vont essayer de stimuler les goûts pour pousser les achats le plus fort possible. Il en est ainsi, par exemple, des sodas sucrés qui renforcent l'appétit des gens. Il en est ainsi des petits jouets qu'on met dans les boîtes pour attirer les enfants à manger de cette façon-là. Et il en est aussi de la façon de consommer. C'est-à-dire qu'autant il est difficile d'amener un enfant dans un restaurant, de le laisser assis pendant trois quarts d'heure ou une heure et d'attendre ses plats, autant quand on est servi à la minute, qu'on mange dans un espace qui a été fabriqué pour eux, on stimule un goût et au lieu d'avoir une transmission familiale, on fait une transmission automatique. Il m'est arrivé un incident il y a 15 jours, j'ai amené mes petits-enfants en vacances et donc on était, moi je voulais leur faire plaisir, j'étais dans un restaurant de burger, mais un vrai restaurant de burger, avec un steak haché, du pain, des légumes dedans, etc. Bon. Et en fait, mes petits-fils ne voulaient pas manger le burger et j'étais bien ennuyé parce qu'il n'y avait que des burgers à manger. Donc j'ai demandé à la jeune femme si elle pouvait me servir le burger au poulet, qui était un poulet pané, mais juste avec un accompagnement de salade pour les petits. Le poulet était remarquable. Ça veut dire qu'il était pané très légèrement, mais remarquable. Mes petits-fils n'ont pas voulu le manger. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été éduqués aux nuggets. Et donc, ils sont éduqués à la pâte de poulet, qui est pas mauvaise pour la santé, mais bien panée avec une panure vraiment riche et vraiment épaisse, et qui ne se mange qu'accompagnée de frites congelées à peu près imbouffables pour un adulte gourmet, et avec un soda sucré. Voilà, mes petits-fils ont été fabriqués par la génération fast-food. Donc, si mes petits-fils allaient dans le fast-food, se contenter de manger à la limite leurs nuggets et de prendre une salade même pas bonne avec de l'eau, ça conviendrait. Mais ce qui m'a choqué, c'est que le poulet qu'on m'a servi dans ce restaurant était très bonne qualité. Il était pané avec finesse. Il était meilleur que tout ce qu'on peut manger. Qui n'ont pas voulu le manger parce que c'est une génération nuggets.
Il nous attend plein de rendez-vous tout au long de cette émission. Hein. Elsa, on en retrouvera Stéphanie Terrien,
oui,
qui nous présentera avec sa plume en or le portrait. On trouvera également Grâce de Capitani avec sa carte blanche. Grâce de Capitani qui va nous donner des conseils pour séduire un homme. Ouais, on aime bien inverser les rôles dans Les Artistes ont la parole. Et en troisième partie, eh bien, on retrouvera Anne-Charlotte Monville pour la chronique du bien-être. Alors, Cyril, c'est pas un hasard si on a invité Jean-Michel Cohen, parce que pour traverser la Manche à la nage, on imagine qu'il faut un certain régime alimentaire.
Oui, d'autant plus que j'avais couru avant 140 km. Puisque l'épreuve enduroman, c'était de partir à Londres, courir 140 km, ensuite enchaîner avec la traversée de la Manche à la nage, parce que voilà, fallait jusqu'à Paris quand même, ça aurait pas été rigolo de s'arrêter à Calais, donc fallait finir en vélo, donc de Calais à Paris, soit 300 km. Donc oui, il y a eu un an de préparation pour cette épreuve au niveau de l'entraînement, sachant qu'à côté j'ai une vie de famille et qu'à côté j'ai aussi un travail qui me prend pas mal de temps. Donc il fallait toute une discipline au niveau de la préparation physique, la préparation mentale, la préparation aussi à se bien récupérer, parce que des fois, comme le disait d'ailleurs Jean-Michel Taylor, aujourd'hui on a le temps de rien et quand on peut faire les choses vite, c'est mieux pour tout le monde. Sauf que moi j'ai considéré que pendant cette année de préparation, il était super important de bien me reposer, de bien récupérer, donc d'avoir une stratégie de récupération pour bien faire cette épreuve. Et la dernière et pas des moindres, c'était de bien se nourrir, effectivement. Donc pendant un an, je me suis fait accompagner par un nutritionniste sportif qui m'a donné les bonnes recettes, au sens propre et figuré, pour pouvoir manger 3 à 5 repas par jour, puisque je consommais beaucoup de calories pendant ma préparation.
5 repas par jour?
Ah oui, 5 repas par jour, oui. Donc ça veut dire manger plus régulièrement, fractionner plus, mais peut-être en avoir moins dans l'assiette. Et surtout, c'est pas forcément en quantité, mais en avoir plus en termes de micronutriments, en termes de ressources caloriques, évidemment, protéines pour mes muscles et vitamines, parce que voilà, surtout pour passer l'hiver, l'épreuve allait au mois de juin, il s'agissait de bien passer l'hiver et de bien se régénérer tout au long de cette préparation pour être fin prêt au mois de juin, préparé à traverser la Manche à la nage. Donc oui, la nutrition a été un paramètre extrêmement important.
Alors Jean-Michel Cohen, on imagine que pour un garçon comme Cyril, c'est encore une autre façon de manger.
Mais c'est complètement différent. Là, on a affaire à un sportif. Dans le cadre des sportifs, ce qui est important, c'est de réparer ce qui est perdu, notamment pendant l'effort. On améliore la performance sportive d'un sportif, pas en lui donnant une nourriture particulière, mais en réparant bien ce qui a été perdu ou consommé pendant l'effort. Donc le premier besoin, c'est un besoin énergétique, c'est un besoin d'ordre, c'est le niveau calorique. Un homme normal dépense environ 2400 calories par jour. Chez certains sportifs, par exemple les haltérophiles, on est à 7-8000 calories par jour. Et quand on dit fractionner les repas, c'est pas seulement pour des raisons chimiques, fractionner les repas, c'est simplement pour des raisons de contenance de l'estomac. L'estomac est une poche, donc on peut pas y mettre ce qu'on veut, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un sportif va consommer effectivement plus de vitamines qu'un autre, et c'est pour ça que par exemple la vitamine C, autant il y a aucune carence en vitamine C dans l'alimentation normale, autant chez un sportif il faudra supplémenter en vitamine C, et principalement les minéraux, ça veut dire ce qui va être sodium, potassium, calcium, éventuellement phosphore, tout ça accompagné avec une hydratation qui est bien plus importante que d'habitude, parce que un sportif souvent transpire. Le rôle de la transpiration, les gens ne le savent pas, c'est essentiellement pour diminuer la chaleur du corps. C'est-à-dire qu'en fait, on transpire pour abaisser la chaleur du corps quand la chaleur du corps monte, ce qui est le cas d'un sportif. Mais franchement, ce qu'il a fait, bon, c'est beaucoup plus qu'un exploit. Courir 140 km, je sais pas en combien de temps vous l'avez fait, mais moi, je suis scotché.
18h30.
Ouais, je suis scotché parce que ça, enfin, je veux dire, c'est énorme, quoi. Ça veut dire qu'il a couru quasiment à 8 à l'heure. C'est énorme. C'est une usure du corps très importante. Poursuivre par la natation, je sais pas comment il a pas coulé, et finir par le vélo, à la limite, il a dû trouver que c'est reposant d'être assis, quoi.
Exactement. Fallait juste pas s'endormir sur la selle, voilà.
Oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est un véritable exploit. Là, c'est une préparation très, très intense. Elle se prépare en amont, mais elle se prépare pendant aussi, parce que j'imagine que pendant, il a dû avoir des rations énergétique à consommer au moment de l'effort, de l'eau et des minéraux.
Oui, tout à fait. Et en fait, j'en ai tiré un principal enseignement de cette épreuve, le avant, le pendant, et donc après, c'est que plus je fractionne, mieux je me porte. Alors, je vais pas fractionner à 10 faut dire pas par jour, quand même pas, mais fractionner au niveau de la nutrition, c'est quelque chose qui a été vraiment très important pour moi, et plutôt, comme le disait Jean-Michel, de manger beaucoup d'un coup, ce qui était en plus, d'autant plus que moi j'ai des problèmes au niveau digestif. Donc, l'estomac, quand il mange beaucoup de sucre, bah, ça devient compliqué, et des sucres d'ailleurs, j'en ai pas besoin tant que ça sur une épreuve comme celle-ci, on pourra parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais donc, fractionner, et même au niveau du sommeil, parce que bon, l'épreuve, moi je l'ai faite en moins de 60 heures, j'ai battu le record d'un Australien qui était de 61h30. Donc aujourd'hui, le record mondial est en France et j'en suis pas peu fier. Mais voilà, pour faire cette épreuve, en fait, et si j'ai réussi par rapport aux autres, oui, c'était dans les recettes de l'alimentation et de la récupération. J'ai dormi 3 heures en tout et pour tout sur cette épreuve, mais j'ai fractionné en 2 fois 1h30. Et entre ces phases de sommeil, j'avais des phases de micro-sieste, de sieste flash. Et voilà, ce qui m'a permis vraiment d'adopter une stratégie un peu différente de ce qu'on voit dans l'univers du sport, puisqu'en général, qui dit performance dit aller vite, dit pas de récupération, manger vite, faire tout vite. Et c'est un petit peu l'image, je trouve, qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est que les gens qui font beaucoup de choses, on a envie de faire beaucoup de choses, mais on les fait très vite et finalement on les fait pas très bien, quoi. Donc comment avoir une vie bien remplie en faisant moins, finalement, c'était un peu mon leitmotiv au cours de cette préparation, même pendant l'épreuve, parce que j'étais moins rapide que les autres, si on regarde la vitesse. Par contre, j'ai récupéré beaucoup plus vite et ça m'a permis de battre ce record, et donc j'en tire forcément des enseignements dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui.
Sans plus attendre, on va retrouver Stéphanie Terrien. Bonjour Stéphanie.
Les artistes ont la parole. Le portrait, Stéphanie Terrien.
Bonjour Michel, bonjour à vous. Vous vous demandez qui est Jean-Michel Cohen ? Jean-Michel Cohen est un nutritionniste et auteur français, né le 22 mai 1960. De 1982 à 1986, Jean-Michel Cohen a été consultant pour des laboratoires et a développé des solutés hyperprotéinées pour gérer les situations graves de dénutrition. Il a également été auditionné comme expert pour la commission de réflexion sur l'obésité demandée par le gouvernement. Jean-Michel Cohen écrit par la suite plusieurs livres liés à la nutrition, comme « Savoir maigrir » en 2002, « Au bonheur de maigrir » en 2003, ainsi que le livre « Savoir manger », le guide des aliments en collaboration avec Patrick Serrog, également nutritionniste. Jean-Michel Cohen a été décoré de l'Ordre National du Mérite par le ministre de la Santé en 2002. En 2011, il devient chroniqueur de l'émission « Seriez-vous un bon expert ?» qui sera diffusée pendant 2 ans. Jean-Michel Cohen a également animé l'émission « Mon bien-être » d'avril 2011 à 2012. Jean-Michel Cohen sort environ chaque année un livre. En 2017, c'est le livre « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ?» qui est disponible dans les librairies. Cette même année, il est élu aux élections législatives en tant que suppléant dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Ce que l'on peut retenir de Jean-Michel Cohen est sa passion pour la nutrition qu'il nous fait partager entre ses livres et les diverses émissions de télévision.
Merci Stéphanie. La suite en musique dans Les Artistes ont la parole. On vous rappelle que nos invités sont Jean-Michel Cohen et Cyril Blanchard. Premier choix musical de Jean-Michel Cohen, Katchou. C'est ce que tu nous as choisi.
J'adore, c'est très très entraînant et j'adore le rythme de cette chanson. Donc j'adore.
Et c'est tout de suite dans Les Artistes ont la parole.
Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi.
Les artistes ont la parole.
Les artistes ont la parole, deuxième partie de cette émission. En notre compagnie, Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste national. Aussi en notre compagnie, eh bien, Cyril Blanchard, notre enduroman national. N'ayons pas peur des mots, c'est vrai qu'il a quand même traversé la Manche à la nage. Ça fait combien de kilomètres? Vous pouvez nous rappeler?
À vol d'oiseau, il y a 33 kilomètres.
33 kilomètres.
Mais avec les courants et les vents et les marées, etc. En fait, la nage moyenne, ça va être 40 kilomètres. Et moi, je m'ennuyais, j'en ai fait 60. J'étais sur une semaine, il y avait des forts coefficients de marée, malheureusement.
Sans compter les 140 kilomètres aussi pied avant. Hein.
Bah oui, on a oublié de les compter. Jean-Michel Cohen, en première partie d'émission, tu nous parlais de burgers, tout ça. Dans ce que tu nous dis, on retrouve quand même la présence d'une certaines protéines qui s'appellent le gluten.
Oui, alors c'est quelque chose qui est apparu il y a 3-4 ans où on a vu alors fleurir. Ça a commencé d'abord par les États-Unis. Moi, j'ai découvert le sans gluten, surtout aux États-Unis, il y a quelques années de ça, où j'étais effaré quand j'ai vu dans une pizzeria gluten-free pizza. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai été la manger et en fait, ça ressemblait vraiment à une vraie pizza. Ensuite, on s'est questionné sur le sujet. Le phénomène est arrivé en France. Et pendant quelques temps, on a pensé que les gens qui mangeaient sans gluten, ils étaient un peu surconditionnés. Enfin, en tout cas, que ça avait pas grande valeur. Et puis finalement, plus on a creusé et plus on s'est rendu compte que c'était pas une allergie au gluten, ça s'appelle la maladie cœliaque, c'était une susceptibilité ou une intolérance au gluten qui provient pas du fait que les gens soient malades, qui provient du fait que notre alimentation a changé. Je donne toujours cet exemple, les gens ne le savent pas. Quand vous prenez une baguette ordinaire, bien vous avez une baguette dans laquelle vous avez le droit de mettre 14 ingrédients à l'intérieur, des additifs différents. Quand vous prenez une baguette tradition, parmi les 3-4 additifs qui sont autorisés, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont autorisés, il y a du gluten. Donc ça veut dire qu'on a renforcé la quantité de gluten dans les aliments, dans les produits panifiés, pour avoir des pains plus moelleux, plus agréables à consommer. Mais on a retrouvé également du gluten dans beaucoup d'autres aliments, et en particulier dans les produits light, parce que pour fabriquer un produit light, on est obligé d'utiliser des amidons transformés. Et auparavant, un yaourt, c'était simplement du lait dans lequel on avait mis un bacille pour le fermenter, puis le coaguler. Aujourd'hui, on est obligé, pour avoir une consistance, de rajouter un amidon transformé, et donc de se faire du gluten. Donc finalement, la quantité de gluten qu'on ingère aujourd'hui est beaucoup, beaucoup plus importante que celle qu'on ingérait il y a une vingtaine d'années. Et chez certaines personnes, ça a créé une intolérance parce qu'il manquait de certaines enzymes pour les digérer. Donc oui, aujourd'hui, il faut reconnaître la réalité. Il y a bien sûr une partie des gens qui n'ont absolument pas besoin de manger sans gluten, c'est vrai, et qui le font parce que c'est là ce qu'on appelle la parole magique en nutrition. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un vous dise de le faire et qu'il se sente mieux, ça vous fait vous sentir mieux, même si vous n'avez aucun effet. Et puis le deuxième effet, c'est qu'il y a effectivement des gens qui le tolèrent moins bien. Le tolérer moins bien, c'est pas forcément grave, ça signifie qu'on a quelques ballonnements, qu'on a une digestion un peu plus difficile, mais on n'est pas malade. Donc le sans gluten, oui. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? En tout cas, ça pose aucun problème nutritionnel, parce qu'il existe beaucoup d'autres produits céréaliers. Donc quand on évite le blé, l'orge, l'avoine et le seigle, ça va, mais il reste le sarrasin, le quinoa, le boulgour, le maïs, le riz, etc. Donc les pommes de terre, donc il y a encore d'autres féculents. Donc il n'y a aucune carence dans les régimes sans gluten.
Alors, je voulais juste avoir une petite précision. Est-ce qu'il est préférable donc de manger un yaourt naturel ou de manger un yaourt avec 0% de matière grasse?
Vous allez tout de suite me donner la réponse vous-même, parce qu'un yaourt à 0%, il fait 41 calories environ, et un yaourt normal, il va faire 60 calories. C'est-à-dire que la différence de calories ne vaut pas le fait que vous perdez la notion de rassasiement psychologique. Le rassasiement psychologique, c'est-à-dire c'est la satisfaction de manger, vous la perdez avec un produit qui est light, alors que vous la conservez avec un produit qui est pas light. Donc nous, on commence à abandonner de plus en plus les produits light, enfin la plupart des gens. Peut-être pour certains produits laitiers, quand les gens sont au régime, on peut encore les garder. Et puis surtout, on abandonne les édulcorants en ce moment. C'est vraiment la nouvelle guerre, c'est de dire que les édulcorants qui ne sont pas toxiques, je le répète, ne sont pas forcément intéressants, puisqu'on vient de démontrer qu'ils amplifiaient le désir de manger plus gras. Pas plus sucré, mais plus gras. Donc on est en train de demander aux gens de réapprendre à boire le café sans sucre, à prendre un yaourt sans sucre, d'autant qu'il y en a un peu dans le yaourt, il y a du lactose, et à ne pas bombarder en édulcorant toute la nourriture qu'ils prennent, notamment dans les sodas light.
En fait, il faut rééduquer le palais quelque part.
Oui, il faut rééduquer le palais. C'est-à-dire que notre palais, il a été déformé. Je suis pas le plus grand critique de l'industrie alimentaire, parce que c'est malhonnête de taper sans arrêt sur l'industrie alimentaire. Sans l'industrie alimentaire aujourd'hui, les Français, ils auraient pas du tout bien à manger. Donc l'industrie alimentaire, elle fait son business avec excès, mais elle fait son business. Mais c'est vrai que l'industrie alimentaire, elle a reconditionné les goûts des individus. Elle a reconditionné nos goûts. Elle nous a appris des goûts qu'on connaissait pas. Typique, par exemple, pour les fromages, où le fromage tradition est remplacé aujourd'hui par des compositions fromagères. Moi, je me souviendrai toujours de la phrase d'un grand président, du président d'une grande société fromagère, qui m'a dit « Oui, c'est vrai, moi je donne pas à manger du vrai fromage aux gens, mais je donne à manger du fromage qui se mange. » Et il fabrique des petits fromages à tartiner, bon, que les enfants adorent, que les adultes adorent, mais qui est pas du vrai fromage. C'est du lait avec du beurre, ça correspond pas à du fromage. Et c'est vrai que cette industrie a retransformé nos goût.
Elsa Mawart,
on voulait savoir aussi, je pense que ça va intéresser nos auditeurs aussi, qu'est-ce que vous pensez, Jean-Noël, de tout ce qui est maintenant cette...
Jean-Michel,
cette nouvelle tendance maintenant des végétaliens et des végétariens?
Alors, pour les végétariens, je me suis déjà expliqué dessus, il y a très peu de carences chez les végétariens. On pense qu'il y a un peu de carence en vitamine B12, mais elle est assez rapidement compensée. Donc, les végétariens ne posent aucun problème. Ils n'ont pas de carence parce qu'ils continuent à manger des protéines d'origine animale, les œufs, le lait, le fromage. Donc, il n'y a pas de problème. Ils font ce qu'ils veulent. c'est un choix personnel et je peux le comprendre parce que on est bouleversé ces temps-ci par la maltraitance animale. En ce qui concerne les végétaliens, j'avais une position plus dure que celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, je raisonnais sur des connaissances un peu anciennes sur lesquelles je pensais que les végétaliens étaient totalement carencés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de protéines de bonne qualité dans leur alimentation et je reprends l'exemple de la vitamine B12 et en fait on se rend compte que chez les végétaliens suréquipés, c'est-à-dire ceux qui savent faire, qui mélangent céréales avec légumineuses, qui se complémentent en vitamine B12, ça marche pas si mal que ça. Donc, alors maintenant, les avantages santé, non, je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a pas d'avantage spécifique santé. Il y a un avantage santé dans la mesure où ce sont des gens qui sont beaucoup plus attentifs à leur à la qualité de vie. C'est-à-dire, ils fument pas, ils boivent assez rarement, ils prennent du produit bio, etc., etc. Mais moi, j'ai un principe là-dessus. Je pense que l'alimentation, c'est une forme de liberté. On est quand même dans une société encore carnée, ça veut dire où il y a une consommation de viande. Personnellement, moi, en ce qui me concerne, moi, j'aime assez peu la viande. Donc, on peut considérer que je suis végétarien, mais c'est une affaire de goût. Ça veut dire que quand je suis invité, si vous m'invitez chez vous et que vous servez, un filet de bœuf, je vais le manger. Mais par goût, j'ai plus envie de manger de viande. Peut-être que j'ai été conditionné par tous les reportages que j'ai vus et qui fait que j'en ai vu un hier sur la tonte des chèvres dans certains pays. Quoi. C'est juste abominable. Ça vous fait pas envie d'aller manger des animaux. Voilà, donc il n'y a pas de carence vraie, mais chez les végétaliens, il y a des prudences à faire. Il vaut mieux se faire conseiller par un végétalien.
Elsa ?
On voulait savoir aussi, je pense que ça va nous intéresser aussi nos auditeurs. Pour toi aussi, Michel Berger.
Quelle est une
bonne alimentation ? Est-ce que on a le droit aussi, par exemple, à un petit verre de vin ? Parce que ça pose aussi des problèmes en ce moment. On en parle, mais est-ce qu'un verre de vin rouge, est-ce que c'est bon pour la santé ?
Bon alors, si on écoute notre président Macron, oui, apparemment, il le fait. D'ailleurs, je confirme qu'il le fait parce qu'il mange souvent dans un restaurant où je vais moi aussi assez souvent. Mm-hmm. Et c'est vrai, il le boit ce verre de vin. Donc, un verre de vin par jour, oui, il y a aucun problème. On dit un verre de vin par jour pour les femmes et deux pour les hommes. Mmh. Et même, je pourrais donner quelque chose d'assez transgressif que les hépatologues m'ont confié, c'est que les hépatologues, donc les médecins qui s'occupent spécifiquement du foie, préfèrent quelqu'un qui boit énormément une fois par semaine à quelqu'un qui boit régulièrement tous les jours. Les effets protecteurs du vin, c'est bidon. C'est-à-dire l'histoire des polyphénols et des tanins, c'est totalement bidon parce qu'il faudrait des hectolitres pour arriver à avoir des doses de polyphénols efficaces.
D'accord.
La seule chose efficace dans le vin, c'est l'éthanol. Et l'éthanol a un effet efficace pour diminuer le mauvais cholestérol et faire monter le bon cholestérol. Mais c'est l'éthanol. Donc vous prendriez 3 gouttes d'alcool à 90 degrés que vous mettez dans un verre, vous auriez exactement les mêmes effets santé. Donc oui, le verre de vin, parce que je suis un hédoniste, que le vin fait partie notamment de notre patrimoine. Vraiment, c'est important. Et quand vous goûtez les vins pourris que vous mangez, vous buvez dans les pays étrangers, on n'a jamais la finesse, la sensibilité, l'élégance d'un vin français. Donc oui, un verre de vin par jour, il n'y a aucun problème. Et quand les gens sont au régime, je leur dis de remplacer le fruit par le verre de vin pour justement leur permettre d'avoir ce verre de vin. Et pour les sportifs, ça leur donne de la joie quand ils font des efforts comme le fait notre ami.
Oui, je confirme que avant de préparer l'épreuve, un an avant, la première question que j'ai posée à mes préparateurs, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer à profiter de la vie ? Et ils m'ont dit, Cyril, tu ferais bien une belle erreur si tu arrêtais un de boire, deux de voir tes amis et de faire des soirées, etc., etc. Parce que la préparation à la performance, certes, il faut une grande rigueur au niveau nutritif, préparation physique, etc. Donc ça demande beaucoup de discipline. Mais Jean-Michel vient de le dire, c'est que s'il n'y a pas de plaisir dans ce qu'on fait, on devient très vite, chiant pour soi et pour les autres. Et ça, forcément, ça conduit pas à la performance. Donc moi, qui suis issu d'une famille où boire du bon vin, et notamment dans des régions pas loin de la Bourgogne, eh bien voilà, ce sera un dilemme, un péché, voire un dilemme pour moi de ne pas en profiter. Y compris aussi dans les vignes d'Épernay, puisque là-bas, j'y vais souvent pour rencontrer ma sœur et donc faire aussi du bon vin pétillant. Hein.
Il y a des
donc,
bonnes voilà, caves, effectivement.
Voilà, donc là-bas. Voilà, ce sera un péché pour moi d'arrêter de profiter de ces moments-là, qui sont bons pour le palais, bons aussi parce que ce sont des belles rencontres. Et comme j'ai des amis qui sont restaurateurs et qui ont l'art de faire des très très bons plats, ce qui est le plus important pour moi et pour eux, c'est surtout la rencontre en fait. Alors le repas n'est qu'un prétexte aussi à la rencontre, et rencontrer des gens, passer des bons moments, ça aussi c'est des choses qui nous permettent de rester complètement éveillé sur son état d'être, sur sa santé. Et moi je suis pas extrémiste du tout dans ma manière d'appréhender mon sport, au niveau nutritionnel en tout cas.
Cyril Blanchard, on rappelle le titre de ton livre, Aimer et atteindre le sommet.
Oui, mon préparateur nutritionniste d'ailleurs, c'était David Martin qui était avec moi la dernière fois quand on s'était rencontrés. Et David aurait été vraiment très contrarié que je ne vienne plus le rencontrer et partager avec lui la bonne chair et les bons vins aussi. Donc évidemment, ce n'est pas tous les jours, mais boire un bon verre de vin, pas tous les jours, mais j'en prenais quand même assez régulièrement. Et donc voilà, ça ne m'a pas empêché du tout d'arriver bien frais et bien préparé à cette épreuve et de battre le record. Et c'est ce que j'ai cru aussi dans le livre, hein, parce que je voulais partager toutes ces recettes, hein, parce que quand on pense performance extrême, etc., on s'imagine que les sportifs sont dans un état, dans une bulle complètement fermée, coupée du monde. Or moi, c'était vraiment pas du tout mon objectif, quoi. Je voulais vraiment rester complètement ouvert, et c'est ce que j'explique dans le livre. D'ailleurs, Jean-Michel a dit, c'est une question d'équilibre finalement. Si on veut rester dans une pleine énergie, une pleine maîtrise et de bonnes dispositions, il faut garder le choix. C'est nous qui faisons nos propres choix finalement, avoir connaissance de tous les paramètres, de la santé pour ce qui me concerne, de la performance. Et moi, la santé et la performance, c'est des choses complètement compatibles, tout est une question d'équilibre.
Sans plus attendre, dans les artistes ont la parole, nous allons trouver Grâce de Capitanie avec sa carte blanche. Bonjour Grâce.
Les artistes ont la parole, carte blanche à Grâce de Capitanie.
Les artistes ont la parole avec la carte blanche de Grâce de Capitanie. Bonjour Grâce.
Bonsoir, bonjour Michel.
Bonjour, bonsoir. Oui, hello, on va dire, comme oui. Ça c'est intemporel. Alors là, vous êtes tombé sous le charme, on dirait bonjour, bonsoir. Et j'imagine quelques conseils à donner à nos auditrices et auditeurs.
Quelques astuces assez simples. Bon, évidemment, les mains...
On fait des choses avec les mains.
Mais oui, elles sont essentielles. Vous avez repéré en lui un maniaque des mains, parce qu'il vous a parlé avec admiration des vôtres ou de celles de sa mère. Soignez-les tout particulièrement, enduisez-les de crème hydratante, polissez ou vernissez vos ongles, parfumez-vous l'intérieur du poignet, portez des gants fins et variez l'usage des bagues. Elles n'ont rien perdu de leur puissance de séduction. Alors, ne pas négliger la bouche. Sur le visage se lisent toutes vos émotions, sans que nous puissions vraiment tricher avec nos sentiments. Mais si un homme vous fait la cour, même s'il admire vos yeux ou vos cheveux, c'est votre bouche qu'il convoite. Il fantasme sur sa taille petite. Elle augure d'un sexe étroit. Grande, elle promet certaines choses majestueuses. Il anticipe la douceur des lèvres, leur saveur. Maquillée ou naturelle, votre bouche le subjugue. Soyez-en consciente, riez, ne serait-ce que pour laisser paraître vos dents. Se mordre légèrement la lèvre inférieure pour ne pas pouffer de rire peut être charmant. Passez un petit bout de langue pour humecter des lèvres que l'on s'en sèche, tout en continuant de le regarder droit dans les yeux. Ce sera compris comme une invite des plus directes. Tout comme poser du rouge à lèvres sans l'aide d'un miroir, en se pressant ensuite les lèvres l'une contre l'autre.
Merci Grâce. La suite en musique avec Calogero, qui est le choix de Cyril Blanchard. Tu aimes Calogero ?
Alors j'aime Calogero, je suis allé voir en concert et on fait d'ailleurs aussi beaucoup de concerts avec ma femme qui profite de ces moments de la vie avec moi.
D'accord.
Et pourquoi Calo ? Parce que y a là quoi.
On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château.
Les artistes ont la parole. Elsa Mawart, Michel Berger.
Les artistes ont la parole, troisième partie de cette émission. Vous allez bien, Elsa ?
Eh bien, on en apprend des choses.
On apprend des choses. Les artistes ont la parole est une émission culturelle.
Est-ce que tu es rassurée, Michel Berger ?
Oui. Et vous, êtes-vous rassurée, Elsa Mawart ?
Tout à fait. Au moins, ça va. On pourra en prendre notre verre de vin tous les jours.
Voilà.
Sans danger.
Voilà,
c'est déjà ça.
On peut faire la fête.
Voilà.
Mais en parlant du vin, il y a un truc qui nous fait peur et on le voit sur les petites étiquettes : les sulfites. On voit ça partout.
Oui, alors le problème des sulfites, c'est que on s'est rendu compte il y a quelques années de ça qu'une trop forte consommation de sulfites pouvait être dangereuse pour la santé. Et c'est vrai qu'on en trouve dans le vin et particulièrement dans les vins blancs, plus que dans les vins rouges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas les traitements bio qui ont fait diminuer les quantités de sulfites dans le vin. Mais il faut dire que des sulfites, on en a ailleurs que dans le vin. On en a dans les eaux minérales. On en a dans l'eau du robinet. Donc, le problème, c'est toujours ça. C'est-à-dire, c'est le seuil de consommation. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne s'alimente qu'avec ce type de produit ou non? Ceci dit, le danger reste quand même moindre que la peur qui est associée à ce genre de choses. C'est la problématique qu'on a ces temps-ci. Mmh. C'est que les gens ont finalement en quelque sorte peur de manger parce qu'ils entendent une rumeur. Et donc, vous allez parler sulfite. Personne ne saura donner une dose. Personne ne saura dire les vrais effets que ça peut donner. Et certaines personnes vont s'exonérer de manger un produit dans lequel il y a des sulfites sans se rendre compte que c'est pas forcément si grave que ça.
Elsa.
Jean-Michel, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous donner un exemple d'un repas équilibré ?
Oh oui, c'est facile. C'est le hors d'œuvre, ça sera soit une assiette de crudité assaisonnée avec une huile de bonne qualité, colza, huile d'olive, éventuellement les huiles combinées, ou encore un demi-avocat avec un jus de citron, ou encore un demi-pamplemousse, ou encore 6 crevettes. Il y a même des recettes de mayonnaise sans huile qu'on utilise en utilisant de la moutarde, un jaune d'œuf et en foisonnant du fromage blanc à l'intérieur, et qui est pas mauvaise du tout. Et on met un peu de gélatine pour le durcir derrière. Ensuite, on va prendre une source de protéines. Ça peut être des œufs, du poisson, du fromage. Ça peut être du fromage, du saumon fumé, du canard si vous voulez. On va le cuisiner avec très peu de matière grasse. Je préfère les cuissons rôties et rajouter les matières grasses après plutôt que les cuissons frites parce que ça dégage de la acroléine. C'est une substance qui est un peu dangereuse. Et ensuite, on va faire un mélange dans l'assiette avec une partie féculents, une partie légumes. Alors les féculents, ça pourrait être pommes de terre, riz, pâtes, semoule et les légumes, ceux que vous avez envie. Puis on essaye de finir par un produit laitier, que ça soit du fromage ou des laitages traditionnels, et après une salade de fruits. Voilà, ça c'est le repas parfait. Après, ça n'exclut pas qu'à partir de ce repas parfait, vous puissiez faire une composition différente. Autrement dit, l'année dernière, on a sorti avec Thomas Clouet un livre qui s'appelait Bouddha Bowl. Et on avait expliqué aux gens qu'en mettant dans un bol tout un tas de légumes, puis en les recouvrant de protéines, puis en choisissant la sauce, on arrivait à faire un plat unique. Moi, ça m'est égal si dans l'assiette, on met du poulet, du pamplemousse, de l'avocat, des petites pommes de terre coupées en lamelles et un peu d'ananas dessus. C'est exactement la même chose. Quand vous avez parlé tout à l'heure des 5 repas par jour, la répartition des aliments dans une journée pour un individu, elle est strictement personnelle. Il n'y a aucune règle à part les règles sociales. Vous pouvez manger un repas par jour ou 7 repas par jour. C'est exactement la même chose sur le plan nutritionnel. Ça sera exactement la même chose. En France, par exemple, on est passé du stade où on avait un repas par jour à 4 repas par jour. Mmh. Et en ce moment, on est à 3 repas par jour. Modèle qui est amplifié par l'industrie alimentaire qui veut vendre les céréales du petit déjeuner, qui ont envahi les assiettes des gens. Enfin, dernière chose, le repas à la française, nous ne le pratiquons pas. Ce que nous pratiquons le repas à la russe. Le repas à la française, il est décrit dans les menus conservés du temps des rois. Ça veut dire qu'on mettait tout sur la table et chacun se servait. Ça, c'est le repas à la française. Le repas à la russe, c'est un repas avec hors d'œuvre, plat, dessert. Et donc, en fait, les Français ne font pas un repas à la française, mais ils font un repas à la russe.
D'accord. Et on va parler un peu de sport aussi. Je pense que Cyril va intervenir aussi. Est-ce qu'il faut faire du sport ? Du sport en étant bien sûr avec un repas équilibré, combien de minutes ou d'heures par jour pour être en bonne santé ?
On a des règles qui ont été données par les organismes scientifiques. C'est soit 5 à 7 fois par semaine, 5 fois par semaine, 20 minutes d'exercice intense, soit 5 fois par semaine, 40 minutes d'activité modérée. Après, au-delà de ça, la promotion du sport, elle se fait pour la santé. Elle se fait pas pour maigrir. Tous les gens qui font beaucoup de sport savent très bien que soit ils vont compenser leur activité physique en mangeant plus, soit ça les fait pas plus maigrir. Mais la promotion du sport, c'est l'immunité, la régression de certaines maladies, Alzheimer, Parkinson, et en même temps le moral, ça veut dire que ça vous met de bonne humeur. Donc voilà, quand je vois Cyril être de bonne humeur après s'être tapé 60 km de nage, quoi, ce garçon est malade, je pense.
Il est en bonne santé, il est avec nous en plus, Cyril Blanchard.
Ouais, moi je compléterais juste en disant qu'il y a finalement le sport, c'est quand on pense sport, on pense performance, on pense se faire du mal, transpirer, etc. Alors, et d'autant plus quand on écoute ce que je vous raconte dans mon histoire. Mais moi, ce qui m'a apporté le plus pendant ma préparation au cours de l'épreuve, c'était pas tant l'effort physique et la dépense calorique, l'énergie, etc. C'était la préservation de mon corps, de mon capital santé pour arriver au bout de l'aventure. Et quand on se dit ça, on faut être beaucoup plus à l'écoute de son corps. Et la problématique aujourd'hui dans le sport, dans la dépense physique, c'est qu'on écoute très peu le corps. On prend un coach. Parfois, il y en a des bons et qui sont justement là pour vous mettre en vigilance et être à l'écoute de toutes les, voilà, de toutes vos articulations, de chaque muscle qui travaille et être en pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire. Si on fait du sport avec ses écouteurs sur l'oreille en écoutant sa playlist, je pense déjà qu'on fait une belle sottise, quoi. Moi, c'est interdit ce genre de choses. Si je fais du sport, c'est pas pour évacuer, pour avoir plein de pensées, etc., ou compenser des choses que j'ai pas bien vécues dans la journée de travail. Le sport, moi, c'est une vraie régénération, un plein équilibre, une fois de plus, entre ma santé émotionnelle, mes pensées et l'état du corps qui est en train de faire une activité. Voilà, moi, c'est ça, là, pour mon activité physique. C'est pas forcément se dépenser à tout va, c'est être à l'écoute de son corps. Une activité qui vous fait du bien.
Jean-Michel Cohen.
Vous savez que très récemment, l'OMS vient de faire quelque chose de très curieux. Il vient d'affirmer la réalité d'une maladie qu'on appelle la bigorexie, qui affecterait les gens qui feraient trop de sport. C'est-à-dire, ce sont des gens qui feraient tellement de sport qu'à la fin, ils finiraient fatigués et dépressifs. Donc, je voudrais savoir comment vous évitez ça, Cyril.
Oui, justement, je suis sans doute passé par là parce que j'ai 43 ans. Donc, sans s'en rendre compte, on devient le hamster dans sa roue qui va de plus en plus vite et la roue va de plus en plus vite. Et puis, à un moment donné, cette dépense énergétique qui vous fait du bien, qui du moins donne l'impression d'être du bien, d'être puissant, en fait, on ne la maîtrise plus parce que la roue, elle va de plus en plus vite, l'inertie, on ne la maîtrise plus. Et puis, à un moment donné, y a le corps qui lâche. Et moi, effectivement, ça m'est arrivé puisqu'à 38 ans, j'ai fait un infarctus. Donc cette bigorexie, je ne sais pas si c'est le nom auquel je me prêtais quand j'étais en pleine activité, entre dirigeant d'entreprise, père de famille, et puis un sport, le triathlon, qui prend beaucoup de temps. Sans doute, je me suis fait avoir par ça. Et quand on passe par un infarctus, on se dit que ce sera plus possible de faire les choses comme avant. Et si j'avais su avant ce que je sais aujourd'hui, sans doute, j'aurais été bien meilleur, bien plus performant. Dites autrement, en faisant un petit peu moins, en étant capable de plus s'écouter et surtout de pas faire mal à son corps. Et moi, je suis tombé forcément dans ce panneau et dans cette bigorexie, sans doute à un moment donné de ma vie. Mais une fois qu'on y est passé par là, après, on change complètement son organisation et son schéma en termes d'entraînement. En tout cas, c'est mon cas.
Pour en revenir à Jean-Michel Cohen, une question là qui me turlupine. Comment en es-tu venu à la nutrition ?
Oula, mais c'est une vieille histoire. Il y a eu deux déterminants. Le premier déterminant, ça a été ma mère qui était obèse, probablement parce qu'elle faisait une dépression que peu de gens voyaient, parce qu'elle était déracinée de l'Algérie qu'elle venait de quitter dans des conditions plutôt difficiles. Et donc on a fait le tour des médecins nutritionnistes escrocs de Paris à l'époque, avec mon père, qui l'a véhiculé, et je souffrais de voir ma mère toujours en échec et toujours en train de chercher de l'aide. Donc les psychanalystes diront que j'ai voulu aider ma mère en étant nutritionniste. Et puis la deuxième chose, ça a été la rencontre avec la personne qui m'a enseigné la nutrition, Marian Applebaum, qui était mon prof de nutrition, qui était un type d'exception, dont j'ai suivi la voie très exactement parce que non seulement c'était un nutritionniste de premier niveau, mais en plus il était extrêmement médiatique. C'est lui le premier qui a montré à la télévision, dans 5 colonnes à la une, comment on faisait perdre 100 kilos à un individu. Cet homme avait une forte, très forte personnalité et je le regardais avec beaucoup, beaucoup d'admiration. Donc ces deux éléments conjoints ont fait que quand j'ai annoncé à mes copains que je serais nutritionniste, c'était donc il y a assez longtemps, ils ont pris une tête, mais vraiment d'enterrement, en me disant « Mais pauvre garçon, il a plutôt de très bons résultats, pourquoi va-t-il choisir ce métier ?» Et donc j'ai vraiment eu peur pendant une semaine, la semaine qui a précédé mon stage, mon premier stage chez lui, chez le professeur Applebaum. Et ensuite, il s'est trouvé que mon choix était vraiment très judicieux, puisque ça a été une médecine vraiment qui s'est envolée et qui est devenue très très importante. Donc voilà, c'est pas un hasard, c'est un peu de psychanalyse au travers de ma mère et beaucoup d'imbibition par mon maître Marian Applebaum. Et puis il y a une troisième personne qui m'a surdéveloppé en termes de médiatisation et d'écriture, c'est lorsque j'ai écrit mon premier bouquin, j'avais un peu honte d'écrire ce que j'écrivais parce que je débinais tout le monde, quoi. J'y allais à l'âche avec la fougue de la jeunesse et j'avais peur de ce que j'étais en train d'écrire parce que c'était sacro-saint, quoi. Enfin, je touchais à plein de gens, je massacrais tout le monde, etc. Et ce gars qui s'appelle Guy Sorman m'avait dit la première des libertés, c'est celle d'écrire. Donc écris ce que tu as envie d'écrire et puis tant pis pour ce qui se passera. Et c'est comme ça que j'ai été connu.
Bien manger aussi, c'est le bien-être et nous avons sans plus attendre rendez-vous avec Anne-Charlotte Monville. Bonjour Anne-Charlotte.
Les artistes ont la parole, les clés du bonheur,
Anne-Charlotte Monville.
Les artistes ont la parole, Anne-Charlotte Monville et la chronique du bien-être, bonjour.
Bonjour Michel, j'espère que vous allez bien.
Très très bien, ça super. Va toujours, les artistes ont la parole.
Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui touche aussi bien les hommes que les femmes, c'est la calvitie.
La calvitie.
La chute de cheveux,
mm-hmm.
Voilà. Alors évitez les excès de sucre et de graisse parce que ça peut favoriser la chute de cheveux. Absorbez des vitamines naturelles en mangeant beaucoup de fruits et de légumes crus.
Des vitamines naturelles, pourquoi il y en a qui ne sont pas naturelles des vitamines?
Bah non, mais que vous pouvez trouver dans les légumes et les fruits justement.
D'accord.
Michel, mais en plus vous pouvez prendre bien sûr, faire une cure de vitamines que vous achetez chez votre Naturalia ou votre
pharmacien,
voilà. Mais ce qui est très très bien, donc je vais vous donner, vous énumérer les produits qu'il faut acheter. Prenez un stylo, donc le soja, la myrtille, l'orange, le cresson et l'ortie. Et une petite cure de levure de bière vous fera aussi repousser un petit peu les cheveux.
D'accord. Hein, vous m'en ramenez surtout des orties pour moi.
Allez, quand je serai dans mon séjour dans le Limousin, je vais faire
La
récolte des orties, voilà.
La suite en musique dans Les Artistes ont la parole. Troisième choix musical de Jean-Michel Cohen, Maître Gims.
Merci.
Tu es très éclectique au niveau goût.
Bah, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez vous occupez beaucoup de vos petits-fils, ils vous mettent dans le coup en termes musical, donc j'écoute pas du tout. Si j'avais eu à choisir une autre chanson, j'aurais pris L'Étoile de Jacques Brel, mais là, en l'occurrence, j'ai tellement écouté ces chansons qu'elles sont dans ma tête.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue.
Les artistes ont la parole.
Les artistes ont la parole. Quatrième et dernière partie de cette émission où on apprend à se nourrir. C'est vrai, on sait plus quoi manger. Entre, c'est vrai, les légumes bourrés de pesticides, entre les blés modernes bourrés de tout ce qu'on veut, entre, on sait plus quoi manger. Là. Qu'est-ce qu'il faut manger, Jean-Michel Cohen?
En fait, plus vous allez varier votre alimentation et moins vous avez de risques. Par exemple, les pesticides, en fait, c'est les produits phytosanitaires, c'est les agriculteurs qui sont les plus menacés. Vous, quand vous achetez une pomme, même de l'agriculture conventionnelle, vous la pelez, vous la lavez sous l'eau ou vous la frottez sur votre pantalon comme le faisaient les étudiants auparavant, vous risquez rien. Par contre, un agriculteur qui va répandre beaucoup de produits phytosanitaires, il est au maximum de risque. Donc les pesticides, c'est plutôt une inquiétude générale de la population et c'est plutôt de l'écologie, c'est pas de la santé. C'est la même chose pour les perturbateurs endocriniens, encore que là-dessus, on n'a pas encore vraiment toutes les notions intéressantes et on a des maladies qui apparaissent dont on se demande si elles sont pas le fait de perturbateurs endocriniens.
Le blé est regardé de travers quand même.
Oui, alors le blé, il a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il a subi beaucoup de modifications, il y a eu des modifications génétiques sur le blé. On parle beaucoup des OGM, mais le blé a subi des modifications génétiques, c'est-à-dire qu'en fait, même si on les a fait de façon naturelle, on a changé les blés. On s'est débrouillé à ce qu'ils soient plus courts pour pas que la branche plie et donc qu'on perde les grains de blé. On a fertilisé les terres au lieu de les fertiliser à l'ancienne. Maintenant, on utilise des nouveaux produits, donc et tout ça a modifié la nature du blé. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur? Bah, objectivement, on n'a jamais vécu aussi vieux que maintenant. Ça veut dire que on a peur, mais en même temps, on vit de plus en plus vieux. Les gens disent mais de moins en moins bien. Bah oui, c'est normal parce que on connaissait pas ces maladies. Je veux dire, quand quelqu'un déclenche une dégénérescence cérébrale à 85 ans, bah oui, avant on mourait à 60. Donc on sait pas ce que c'est. Donc on va finir par guérir toutes ces maladies et donc on va progresser dans la vitalité pendant de nombreuses années. Là, déjà, on sait que les enfants qui sont nés dans les années 2000 à 2010 sont des enfants qui ont probablement de grosses chances d'être centenaires, mais ça va continuer à monter. Et puis on voit les progrès de la technologie, on voit la capacité à recueillir les informations du cerveau, la capacité à régénérer la peau, faire du cœur sans un cœur. Donc oui, il faut être assez optimiste. Donc manger, c'est bien de surveiller pour la planète, c'est pas forcément très très grave pour nous-mêmes.
Ouais, moi je pense qu'il faut mettre un peu de rationalité dans le débat. Donc les gens, s'ils se fient simplement à quelques infos sur Facebook ou sur quelques réseaux que ce soit, je pense qu'il faut rendre les gens intelligents. Donc moi je travaille dans une coopérative agricole, donc effectivement je vais pas renier toutes les pratiques de nos agriculteurs, mais qui changent d'ailleurs, qui changent vraiment fondamentalement. Moi, je suis un fervent en fait de la diversité, comme vient de le dire Jean-Michel, mais aussi et surtout du local. Si les produits sont achetés localement, si on est sur des circuits courts, ils sont moins stockés, ils sont moins. Et si ce sont des produits qui ne sont pas transformés, on a déjà beaucoup plus de chances d'avoir une nourriture dans l'assiette qui est déjà plus saine. Beaucoup plus, je ne sais pas, mais force est de constater, comme vient de le dire Jean-Michel, qu'on vit plus longtemps, que les sportifs sont plus performants qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Donc, ce qu'on a dans l'assiette, que ce soit un blé de bonne ou mauvaise qualité, ça reste un blé quand même bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant. Et moi, si je peux apporter juste mon regard, en tout cas mon expérience sur le blé, puisque Michel, tu posais la question, effectivement, j'ai plutôt tendance à manger des pains noirs et à des blés voilà, qui sont pas chauffés très 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 haute température. Donc voilà, ça c'est ma pratique personnelle. Donc je fais mon pain moi-même, au grand regret de mon boulanger, mais je le fais moi-même et puis bah, je suis sûr que voilà, j'ai des matières qui sont non transformées, c'est moi qui les transforme. Ça me rend un peu plus intelligent, un peu plus, hein, parce que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, j'ai encore plein de livres à lire aussi pour affiner mes recherches, mais voilà, je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des andouilles, n'empêche quoi.
Elsa Mawart, on a fait sauter le jeu du quiz rien que pour vous. Vous allez pouvoir poser super. Plein de questions à nos invités.
Jean-Michel voulait rajouter quelque chose justement sur certaines sortes de pain, effectivement. Est-ce qu'il y a des. On parle souvent en ce moment du pain norvégien, donc ce pain noir. Est-ce que c'est plus favorable qu'un bout de baguette
Oui, absolument. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que c'est un pain qui a un indice glycémique plus faible et qui est plus riche en fibres. Donc il est intéressant. Et la deuxième raison, c'est parce que dans beaucoup de pains, et notamment les pains industriels, maintenant, on trouve du sucre et on essaye de diminuer les apports en sucre dans l'alimentation parce qu'on sait qu'il y a une partie, la surconsommation de sucre, elle est génératrice de beaucoup de maladies, y compris les maladies les plus dangereuses. Donc oui, je favorise ça. Ce qui est bizarre, c'est que nos ancêtres se sont battus pour avoir le blé et la farine la plus blanche possible. Mmh. Et qu'aujourd'hui, on revient à ce qu'on appelle les farines de misère, ça veut dire des farines qu'on ne mangeait pas à l'époque parce que c'était des farines anciennes ou qu'elles étaient moins subtiles que la farine blanche. Mais on y revient et moi, je suis totalement pour.
Cyril, vous nous avez amené un produit, non? Vous voulez nous en parler?
Non, je ne vais pas spécialement parler de ce produit, même si, si vous me donnez l'autorisation de faire de la pub, moi je veux bien. C'est pour une start-up qui démarre, qui est française et qui est sur des filières 100% locales et françaises. Parce que Jean-Michel le disait en préambule, en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que les gens mangent quand même vite. Alors effectivement, quand on voit le flash food avec toutes les enseignes qui fleurissent aujourd'hui, c'est vrai que c'est tentant d'aller trouver la réponse à « j'ai pas le temps de manger » dans ces enseignes-là. Sauf qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des repas. Alors des repas, ça peut paraître pour beaucoup de personnes des non-repas puisque ça se boit, ça se mange pas. Mais ce sont des repas équilibrés, donc avec des vitamines qui vont bien, avec tous les micronutriments dont l'organisme a besoin. À défaut de prendre un sandwich de mauvaise qualité avec une mauvaise farine, etc., moi je crois beaucoup plus à ce genre de produit, alors qu'il paraît pas 100% naturel. Et pourtant, ce sont des produits, des matières qui sont 100% saines et fabriquées donc, voilà, en France. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à mettre en avant ce genre de produit plutôt que de voir mes enfants qui vont manger un hamburger ou des frites.
Alors, il y a 10 ans, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit que l'humanité allait se partager dans les années à venir. Donc, merci de le montrer aujourd'hui entre deux catégories de personnes. Celui qui voudrait manger tout écolo, tout bio et qui prendra l'œuf qui sort du cul de la poule. Et celui qui voudra manger le produit parfait dans une boîte conditionnée avec les vitamines, les nutriments, etc. Je l'ai écrit, donc vous pourrez le vérifier. Moi, je ne suis pas pour ça.
D'accord.
Je pense que c'est un produit de dépannage si vous en avez besoin et notamment pour vous. Mais je ne suis pas pour ça parce que la mastication, la salivation, l'évocation alimentaire, ce qu'incarne la nourriture, c'est extrêmement important. Et je sais que ça, c'est une tendance. C'est-à-dire, ce que vous nous montrez là, c'est une tendance qui se développe. La marque que vous nous montrez, je ne vais pas la citer non plus, elle a déjà plusieurs petits frères. Et avec des gens extrêmement agressifs sur Facebook et sur les réseaux sociaux qui tentent de pousser à la vente. Moi, je pense que c'est un produit de dépannage. C'est-à-dire, pour celui qui n'arrive pas à manger le midi, voilà, ben, ça arrive de temps en temps, donc c'est mieux composé qu'autre chose. Mais ça ne peut pas être, comme le proposent les vendeurs, une alimentation régulière.
Complètement d'accord. C'est tout à fait le genre d'approche qu'on peut avoir sur ce genre de produit. Mais quand on n'a pas le temps, voilà, moi, je considère des fois que, et j'ai pas le temps dans la vie de tous les jours, c'est la vraie vie, quoi, en fait. Faut pas se leurrer non plus, pas se voiler la face. On a tellement de choses à faire. Donc, voilà, une vie de femme, particulièrement quand je vois ma femme qui se lève très tôt, qui s'occupe des enfants, etc. Moi, dans ma culture, il faut manger, il faut s'installer à table, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est extrêmement important. Maintenant, le midi, plutôt que de ne rien prendre et de sauter un repas, moi, je préfère avoir effectivement cette approche-là de compensation et qui va apporter au corps l'énergie dont il aura besoin pour passer l'après-midi. Et parfois, moi, j'ai même tendance à faire un repas un peu lourd le midi et avoir besoin de faire une grosse sieste juste après. Donc bon, là, je dis pas qu'on n'en ferait pas avec ça, mais la sieste, d'ailleurs, c'est toujours bon.
Non, mais j'avais envie de taquiner Cyril et de lui dire, c'est dégueulasse. Pendant que ta femme s'occupe des gosses et fait tout le boulot, toi tu vas faire du sport. Moi, non, c'est pas dans la tendance là. Hein.
Non, non. Et elle m'accompagne, heureusement, elle aime ça. Donc on pratique le sport ensemble.
Jean-Michel Cohen, des réactions, d'autres réactions?
Non, ces temps-ci, je suis captivé justement par la puissance des réseaux sociaux. Mmh. Ça veut dire que moi qui ai connu la grande époque, pas la plus grande, mais une des grandes époques de la télévision et où on faisait passer les messages par la télévision, je me rends compte aujourd'hui que les canaux de diffusion, bah, c'est vous, des radios et des radios web, c'est YouTube, c'est Instagram. Et je trouve qu'on commence à avoir beaucoup de puissance avec ça. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça ouvre le champ à pouvoir ne pas avoir un mendier pour dire quelque chose quand on a besoin de dire quelque chose. Et en même temps, c'est pas bien parce que ça donne la parole à monsieur tout le monde. Et c'est pour ça que j'approuve la position des gens, des politiques sur les fake news. C'est une catastrophe. Moi, j'ai toujours cité cet exemple. 200 scientifiques se réunissent pour dire que les vaccins, c'est super important. Et Ginette 7004 sur Doctissimo va vous dire que les vaccins, ça va tuer. Et ben Ginette, elle a autant de puissance que les 200 scientifiques. Et ça fait de la peine quand même.
Elsa Marbart.
Une petite question, Jean-Michel. On est dans un pays où on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs aussi. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur la santé. Je pense que c'est important aussi de peut-être donner un petit tuyau à pas mal de gens qui sont donc des diabétiques, des problèmes justement cardiaques, où ils sont donc sous traitement de longue durée. Qu'est-ce que vous proposez au niveau des... Quelle alimentation favoriser par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui prennent beaucoup de poids à cause de ce genre de traitement. Et comment faire pour qu'ils perdent un peu ce surplus de poids dû aux médicaments?
Alors, la mise sous régime, elle nécessite quand même une approche personnalisée. Mmh. Pendant des années, on a pensé que l'approche personnalisée, c'était juste les médecins. Je ne suis plus d'accord avec ça. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous, notre site Savoir Maigrir le montre, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à personnaliser beaucoup plus les régimes que ce qu'on faisait auparavant. Je dis merci d'ailleurs à mon maître Applebaum, qui a été un des premiers à créer les régimes sur ordinateur dans les années 1980, ce qui était extraordinaire. On avait le profil alimentaire d'un individu, on lui sortait un régime adapté. Et aujourd'hui, par exemple, sur le site Savoir Maigrir, on arrive à faire quasiment 250 profils différents. Et avec 250 profils différents, vous couvrez un peu justement cette problématique des gens qui prennent des médicaments, des gens qui ne font pas de sport, des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner, des gens qui mangent végétarien, etc., etc. Mais la mise sous régime, elle nécessite de l'accompagnement. Ça veut dire que si vous n'avez pas un coach à côté de vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous parle en permanence, et c'est pour ça que je crois aux nouvelles technologies, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez voir un médecin pour maigrir, le type, il vous accorde entre un quart d'heure et une demi-heure, et il va vous voir une fois maximum par quinzaine ou par mois. Est-ce que vous pensez que ça suffit? Ça voudra dire simplement qu'il a donné une feuille polycopiée, même s'il l'a bien faite, et le gars, il se retrouve tout seul chez lui, il faudrait qu'il ait des menus, des recettes, etc. Donc je crois que justement, les nouvelles technologies vont être la solution. On le voit, hein. Je vois des sites apparaître, les sites de reconnaissance alimentaire dans l'assiette, les sites de calories ou de valeurs nutritionnelles des aliments, les sites de coaching, etc., les sites de coaching sportif. On n'est pas encore à l'apogée de ce système, mais c'est en train d'arriver. Et on peut maigrir en étant diabétique. Moi, je vous assure que je fais maigrir des gens qui sont handicapés, c'est-à-dire des gens en fauteuil. Bien sûr, c'est pas de la même façon que, par exemple, Cyril, à qui je pourrais donner à manger une pizza et des lasagnes tous les jours, mais je peux les faire maigrir, simplement je vais avoir une restriction alimentaire qui est plus puissante. Voilà. On sait tout faire.
Cette émission se termine déjà.
Oh, déjà.
Ça passe à une vitesse. Elsa Marbart, on ne voit pas le temps passer. Hein.
On peut rappeler le livre de Jean-Michel Cohen.
On va rappeler le titre du livre, c'est Maigrir en bonne santé, paru aux éditions
First.
Et on va aussi
le livre de Cyril,
qu'on vous conseille aussi absolument de vous procurer, Cyril Blanchard. Enduromane, aimer et atteindre le sommet. C'est ce que nous allons tenter de faire.
Tout à fait.
Elsa, hein, on va jouer
les bonnes résolutions.
Nous allons jouer les premiers de cordée. Ça fera plaisir à certains. Merci Jean-Michel d'avoir accepté cette émission.
Merci, j'ai passé un bon moment.
Le plaisir est partagé. Tu reviens quand tu veux, cette émission est la tienne.
Merci.
Quelque chose à rajouter pour le mot de la fin, Jean-Michel ?
Oui, je suis content d'avoir rencontré Cyril. je trouve que c'est magnifique ce qu'il a fait. C'est vraiment, c'est la dimension humaine, quoi.
Ouais, moi, si je peux ajouter juste un truc, je suis ravi de rencontrer Jean-Michel, mais je voudrais pas paraître pour le méchant mari, parce qu'en plus, quand j'ai fait le tour de toute la question de ma préparation et du pourquoi j'ai réussi cette épreuve, il y avait qu'une chose qui restait à la fin. On pourrait dire la nutrition, la préparation physique, tout ce qu'on veut. Moi, il n'y a qu'une seule, c'était, et tu l'as dit, Jean-Michel, si on a besoin d'un coach, et moi, mon coach, c'était ma femme, quoi.
Donc, non, mais c'était pour taquiner.
Hein. Non, mais j'y tiens, parce que tu as tout à fait raison de dire que seul, on peut très bien y arriver, mais c'est souvent compliqué quand on a quelqu'un qui est bienveillant sur soi, qui a un regard qui stimule, qui donne envie, qui rassure, etc. Forcément,
l'amour,
on va beaucoup plus loin, quoi.
L'amour.
Et c'est l'amour. Voilà, d'où le titre du livre, Aimer et atteindre le sommet.
Elsa, on se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne pour
tout
de nouvelles aventures.
Bien sûr.
Et puis, ça sera la dernière de la saison aussi.
Oh, déjà, bah, yes. Déjà.
Ça passe à la vitesse.
Eh oui.
On vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Michel. Bon, merci beaucoup,
on se retrouve
Cyril.
La semaine prochaine. Au revoir, tout le monde. Salut, ciao, bye. On va remercier Stéphanie Thérien, Grâce de Capitani, Anne-Charlotte Monville et puis Cognac G pour les moyens techniques. Salut, ciao, bye. Au revoir, tout le monde.
Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac.
deux, c'est pire que la mer à boire.